Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. François Pinet.
Flo Gautreau, Sébastien Piocelle et Jimmy Adjovi-Boko qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce soir avant de retrouver à 22h nos drôles de dames Fred Hermel et Paulo Breitner. Jimmy Adjovi-Boko, tu es du Bénin, le Bénin qui n'est pas qualifié, donc voilà, malheureusement pour cette Coupe d'Afrique des Nations, les écureuils sont passés à la trappe, hein, Jimmy.
Ouais.
Bah oui.
Il faut se souvenir de la manière dont ça s'est passé, c'est aussi... des choses qu'il faut qu'on règle sur le continent. On a été éliminé sur un problème de Covid. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, est-ce que j'ai le temps d'en parler ?
Si, vas-y, vas-y, bien sûr.
En fait, on a été joué en Sierra Leone. Et en arrivant en Sierra Leone, on avait un avion de 80 personnes. Sur les 80 personnes, on a eu 5 personnes, 5 joueurs qui ont été... soi-disant dépisté positif au Covid, testé positif au Covid, et sur ces 5 personnes, en fait, c'était nos 5 meilleurs joueurs, et sur le document qui nous a été remis, ça a été même pas un document officiel, c'était une feuille de papier avec 5 noms couchés.
Ouais. Donc, et qui est-ce qui avait fait les tests ? Qui avait procédé aux tests ?
Il y avait localement
des médecins, quand même.
Oui, des médecins, mais la manière dont ça a été fait, ouais. Et surtout les résultats qui nous ont été donnés n'étaient pas des résultats ouais. conformes à l'éthique.
Ouais. Il y avait deux choses dont je voulais parler, puisqu'on parlait d'infrastructures, développement des infrastructures, tu le dis, tu l'as dit, c'est en progrès et c'est intéressant. Effectivement, j'entendais Arsène Wenger aussi qui en parlait tout à l'heure, puisqu'il y avait un extrait de l'interview qu'il avait faite avec Jérôme Rotten et Jean-Louis Tour dans Rotten sans flamme, et qui disait oui, on a besoin aussi, il n'est pas inutile de parler argent, puisqu'on dit que ça coupe du monde tous les deux ans, c'est aussi une affaire de business, mais il n'est pas inutile parce qu'il rappelait qu'il y avait de l'argent qui était redistribué, y compris en Afrique. Et il disait, ce qui manque en Afrique, c'est les compètes locales, comme tu disais tout à l'heure, donc tant mieux si elles se développent. Là-dessus, je pense que tout le monde en sera d'accord. Et quid de deux choses dont on parle souvent, c'est l'occasion d'en reparler maintenant que la CAN arrive, l'arbitrage et les terrains. Alors toi, tu en as parlé, notamment parlant de, je t'ai laissé parler des terrains synthétiques, hein, je t'ai entendu parler des terrains synthétiques tout à l'heure, là, au Bénin.
Tout à fait.
Mais quid de ça, parce que c'est aussi une réalité pour la qualité des compétitions. Parce que toi, tu parlais beaucoup de l'atmosphère et de l'ambiance. Effectivement, je pense que ceux qui n'ont pas vécu de Cannes ne peuvent pas savoir ce que ça représente en termes d'ambiance. Mais pour le développement à l'international, entre guillemets, c'est-à-dire pour l'intérêt que ça peut avoir, il faut évidemment qu'il y ait les meilleurs joueurs, c'est une chose, et puis qu'il y ait une qualité d'infrastructure, terrain et d'entourage. Donc je pensais à l'arbitrage, parce qu'il y a souvent eu des polémiques là-dessus.
Ben justement, il y a un vrai travail à faire, c'est une réalité, il y a un vrai travail à faire sur l'arbitrage, la formation des arbitres, la protection des arbitres. Il y a des choses qu'on a commencé, que la CAF a commencé à faire, avec une volonté de professionnaliser l'arbitrage, et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, au niveau des infrastructures, nous au Bénin, effectivement, je parlais des 22 stades qui ont été construits, mais sans terrain de qualité, il peut pas y avoir de football de qualité. Mmh. Et les stades qui sont construits aujourd'hui, le Bénin, on a refait le stade de l'Amitié, qui est une des meilleures pelouses aujourd'hui du continent, à tel point que la CAF envoie envoyer les matchs de la Côte d'Ivoire se jouer chez nous, et les gens sont repartis enchantés et veulent revenir. Donc il y a un travail qui est fait, et les pelouses que vous allez voir, je suis certain, au Cameroun, vont être des pelouses magnifiques. Mmh. Et tout le monde a compris l'importance de la qualité de la surface pour pouvoir produire un bon football.
Alors, début de la CAN, on le rappelle, le 9 janvier, bien sûr, avec Cameroun, Burkina Faso. On aura l'occasion d'en reparler. Sébastien Piocelle, tu avais un avis, toi, sur le football africain à travers les matchs que tu peux voir en Europe des joueurs africains. C'est ça, toi, tu trouves que le football progresse, le foot africain progresse?
Ouais, alors déjà globalement, et je parle pour l'Afrique, mais en général pour le football, c'est pour moi c'est le football au footballeur. Donc, je m'explique, c'est par rapport aux gens qui prennent des décisions. Et comme le disait Jimmy, là, on le voit avec Samuel Eto'o, avec Didier Drogba, peut-être qui deviendra aussi un jour président de la Fédération de football de Côte d'Ivoire. Plus globalement, George Weah, qui lui est carrément président donc du Liberia, c'est hyper important déjà d'avoir des personnes décisionnaires et au pouvoir qui connaissent le football, et encore plus si on va dire c'est des gens qui sont écoutés. Et ça pourra, quoi qu'il arrive, faire progresser et voir d'une autre manière le football africain. Là, je parle juste par rapport à la CAN. C'est vrai qu'on s'était dit, c'est une première épreuve quelque part pour Samuel Eto'o. Est-ce qu'il va être sous pression? Est-ce que finalement, et bon, on a vu qu'il avait été assez ferme. Alors, il n'est pas tout seul pour que finalement la CAN ait lieu. Après, moi, là aussi, globalement, je pense que c'est gagnant-gagnant. Depuis pas mal d'années maintenant, il y a beaucoup de footballeurs africains qui jouent dans notre championnat ou en première ligue dans les championnats européens. Je pense qu'il a fait énormément progresser tous ces championnats-là. Et à l'inverse, les joueurs qui ont la possibilité d'évoluer en première ligue, dans le championnat de France, en Bundesliga, eux, quelque part, ils jouent et ils sont dans des structures professionnelles. Ils travaillent dans ces structures professionnelles et ils peuvent forcément et s'améliorer et apporter eux tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils voient après dans leur pays. Donc je pense que ça aussi c'est quelque chose qui a fait progresser le football africain globalement. Et voilà, et aujourd'hui quelque part ce qu'on disait c'est que tout ce qu'il y avait par le futur, les problèmes d'organisation, les problèmes de primes, je m'arrêterai Jimmy si de primes non payées, qui les interventions aussi l'interventionnisme politique aussi dans les compositions des groupes. Alors ça peut encore toujours exister, mais je pense que globalement aujourd'hui le football africain est en nette progression. Et je reprends d'ailleurs ce que j'ai dit par rapport au discours de Gianni Infantino il y a un peu moins de deux ans. Il y a quand même une réelle volonté pour que le football africain continue à progresser et fasse quelque part progresser aussi le football mondial.
Alors après, c'est vrai, quand on parle de foot africain, il y a autant de foot africain qu'il y a de pays. Quand on parle de style de jeu aussi, le foot égyptien n'a rien à voir avec le foot sénégalais, le foot tunisien, c'est pas le football ivoirien. Enfin voilà, il y a aussi des identités. Mais sur ce que dit Sébastien, c'est intéressant parce que moi je t'ai entendu dire pas tout à fait la même chose, Jimmy, en disant que le football africain, même si je le répète, il y en a plein en fonction des pays bien sûr, ne doit pas chercher à copier le foot européen.
Tout à fait. Alors il y a des choses importante à apprendre. C'est ce que je disais aux éducateurs quand j'étais à Diambar au tout début. Je leur expliquais, il ne faut pas faire un copier-coller. Il faut qu'on regarde ce qui se fait, qu'on l'analyse et qu'on voit, qu'on adapte ce qu'on a vu à nos réalités et au football qu'on a envie d'avoir. C'est-à-dire que le football sénégalais va pas être le même que le football béninois, qui sera pas le même que le football nord-africain, et qui doit pas être le même que le football européen. Alors, chaque pays va avoir son identité. Par contre, il y a des bases, que ce soit le travail au niveau de la préformation, au niveau de la formation, au niveau du travail physique, technique. Tout ça sont des choses qu'on doit dans les contenus de séance qu'on doit apprendre. Il y a aussi des réalités au niveau de l'organisation, savoir qu'un match se gagne pas seulement sur le terrain, il se gagne aussi dans la préparation mentale, mais dans la préparation aussi administrative, l'organisation d'un déplacement, enfin toutes ces choses là c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre. Mais si on vient demain à faire un copier-coller et qu'on se retrouve, je vais vous donner un exemple. Il y a des choses qui me choquent quand je vois des matchs de jeunes ici. Sont les éducateurs qui sont toujours à dire à tous les joueurs lâche ton ballon. Donc moi j'en parlais avec des éducateurs de centre de formation que j'étais allé voir au Bénin et je leur ai dit ce sont des enfants. Ils doivent, si on empêche un jeune de dribbler, on perd l'essence même de ce qu'est le football, quoi. Alors, on s'aperçoit en fait d'un certain mimétisme au niveau des équipes. On voit nos jeunes jouer en une touche, des déplacements, et c'est très bien. Il faut qu'ils sachent faire ça. Mais il faut aussi qu'ils sachent que un contre un dans une surface de réparation, il faut pas forcément qu'on cherche en une deux, quoi. Donc il y a le football africain, c'est aussi un football
fait d'improvisation aussi, de
inventif, et tout ça sont des choses qu'on ne doit pas perdre. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Moi, je parlais pas de copier-coller. Justement, j'ai commencé par dire que c'était gagnant-gagnant.
C'est-à-dire
mais là, le constat que tu fais par rapport aux jeunes, il est le même aussi. Enfin, il est le même en France. Dire, tu peux pas dire à un gamin, on va parler de préfaut, on va dire de 10, 12, 13, 14 ans, même s'il y a des bases forcément à apprendre, mais d'enlever ses qualités propres, par exemple, si c'est un gamin qui est capable de dribbler, qui est capable d'éliminer, qui est capable d'aller fixer, et de lui. Mais ça, c'est propre, on va dire, au football mondial. C'est pas propre à l'Afrique.
Non, mais justement, moi, je voudrais pas qu'on perde ça. C'est-à-dire que moi, je voudrais pas qu'on se retrouve dans quelques années avec des éducateurs, parce qu'on voit ça en Europe, avec des éducateurs sur le bord de la touche qui vont dire à nos jeunes, lâche ton ballon. Mmh. Alors, il y a un équilibre à trouver dans le dernier tiers. Si on laisse pas la créativité d'un joueur créatif, c'est, pour moi, on retire l'essence même de ce qu'est le football, quoi. Donc, dans la phase de préparation qu'on apprenne, et ça, c'est pour ça que je parlais de mimétisme, en fait, on voit des jeunes, on voit bien qu'ils regardent les grandes équipes. Et ça fait plaisir de voir ce jeu de déplacement en une touche. Et on a vraiment l'impression, alors que c'était des U13 que je regardais, j'avais l'impression de voir en miniature une équipe professionnelle, quoi.
Ouais. Alors, il est 21h47 dans l'after. On est avec Jimmy Adjoviboko. Hein. Tu restes avec nous, bien sûr, Jimmy. C'est passionnant de parler de la Coupe d'Afrique des Nations avec toi. Charedine, on va la voir dans un instant au 32-16. C'est un supporter tunisien qui veut parler justement du niveau des joueurs qui s'est amélioré. On va continuer à parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Juste un petit détour par l'Angleterre, parce qu'il y en a un qui brille actuellement. Justement, il va la faire, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est Edouard Mendy. Dans les buts de Chelsea à Valentin.
Et oui, effectivement.
Chelsea, Brighton.
Heureusement qu'il brille parce que les Blues sont en difficulté. Il mène 1-0, on le rappelle, grâce au but de Lukaku. On joue la 59e, mais à plusieurs reprises, il a été mis à contribution. Edouard Mendy, notamment sur une frappe magnifique, une reprise de Bissouma, qui lui aussi, d'ailleurs, a été appelé avec le Mali. Il a bien claqué ça au-dessus de sa barre, et puis il a vu la frappe de Mopé passer juste à côté. Entre-temps, Hudson Odoi a manqué un 2 contre 1 d'école où il a voulu servir Mount. Ça a été stoppé par le défenseur, mais voilà, c'était presque trop facile. Et puis dans l'autre partie, City mène toujours 1-0 après 34 minutes de jeu face à Brentford.
Ok, très bien. On suit ces deux rencontres de Première Ligue. On suit également le All-Star Game de basket, tous les directs. C'est dans l'after dans un instant. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. François Pinet.
21h49 sur RMC, l'after jusqu'à minuit avec Sébastien Piocelle, Flo Gautreau. À 23h, il y aura le best-of de l'after, les meilleurs moments du début de la saison à ne pas rater, donc à partir de 23h. Dans quelques minutes maintenant, les drôles de dames, Fred Hermel et Paulo Breitner vont venir nous donner leur pari pour 2022. Et puis, on vous avait demandé en début d'émission de faire vos équipes All-Star, les All-Star Games version Ligue 1 avec la meilleure équipe française et la meilleure équipe étrangère. On aura les équipes de Flo et de Seb dans un instant et vos équipes sur le hashtag RMC Live et sur l'appli RMC Direct Studio. On parlait de la Coupe d'Afrique des Nations et du développement du foot africain avec Jimmy Adjoviboko, notre invité, un grand ancien du RC Lens qui a cofondé Diambars, l'Institut Diambars, qui d'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure, a sorti la pépite Bamba Dieng qui joue à Marseille parce qu'il y a un accord avec Marseille. Hein, c'est bien ça, Jimmy. Hein.
Tout à fait.
Ouais,
on
voilà.
a signé un partenariat avec l'OM et qui.
Ça veut dire qu'ils peuvent prendre les meilleurs joueurs, c'est ça ?
Voilà, ils ont une priorité sur nos deux meilleurs joueurs.
D'accord.
Et aussi, ils nous aident sur le plan technique, sur le plan médical et aussi sur le plan du marketing pour développer notre club.
D'accord, donc ça c'est un accord gagnant-gagnant, on l'a bien compris, pour vous et pour l'Olympique de Marseille. Charedine est au 32-16. Bonsoir Charedine.
Oui, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Supporter tunisien, je le disais avant la pub.
C'est bien ça, oui. je suis un grand supporter tunisien, je suis un grand fan du foot et je suis un grand fan de Jérôme Roten. En plus, je l'écoute tout le temps.
Ouais.
Et voilà.
C'est plus que c'était un Roten au foot. Hein. Ouais. Ça a été mieux, mais
il a perdu un peu.
C'est mon préféré. Parce que toujours, franchement, lui, il dit toujours qu'est-ce qu'il pense. Et surtout pour l'Afrique, pour la CAN, toujours, il dit que des trucs positifs. Et franchement, moi, je l'admire. Mmh. Vraiment.
Alors, justement, là, on est avec Jimmy Adjoviboko, quand même, ancien du RC Lens. C'est peut-être moins ta génération, même si, quand même, tu as peut-être dû le voir jouer. Ou tu l'avais en vignette Panini. Moi, je l'avais en vignette Panini, Jimmy. Parce que forcément, on te repérait avec tes dreadlocks, là, hop, tout de suite. Hein. Je me souviens très bien. Avec le RC Lens. C'était un défenseur pour les plus jeunes qui ne taclait jamais. Je ne me souviens pas.
Pas jamais.
Bah, il taclait.
Non, pas jamais. Un défenseur à coucher est un défenseur abattu.
Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, il valait mieux rester debout.
À la Thiago Silva.
Voilà. Sobre. Sobriété. Voilà. Parfait.
Non, mais tiens, je voulais savoir, tu as une petite anecdote parce que Jimmy avait une particularité, outre qu'effectivement, il défendait beaucoup debout. C'est qu'il. Il n'était pas réputé méchant, et c'était quelqu'un de très correct sur le terrain. Est-ce que tu as pris beaucoup de cartons ?
J'ai pris deux cartons rouges dans ma carrière.
Ah ouais, d'accord.
Et le premier, sur mon premier match en Ligue 1 avec le Racing Club de Lens, et j'ai bien cru que ma carrière se terminait là. Quoi.
Ah ouais, parce que je me souviens que tu avais un souci de la relance, un souci de quand même c'était un défenseur propre Jimmy dans l'ensemble. Et je me suis demandé si je t'avais pas vu souvent être expulsé, je pensais même pas. Ouais. Mais bon, ça arrive évidemment. Sur des rouges directs ou des deux jaunes.
Le premier c'était un rouge direct et le deuxième c'était un deuxième jaune. Ouais.
Ouais.
Un
rouge direct. Mais bon, c'est l'arbitre qui avait fait une erreur.
Non, mais rouge direct sur le premier match, c'est vrai que c'est pas facile.
Oui, c'est vrai.
Non, c'était les nouvelles règles. Dès qu'on touchait un dernier, on était dernier défenseur et.
Voilà. Ah oui.
Bon, ouais, l'arbitre à l'époque avait
appliqué ça.
C'était...
Appliqué, mais cela dit.
Ça devait être Bruno Derrien à tous les coups. On l'embrasse, hein, Bruno.
Marseille, cela dit, la règle n'a pas fonctionné récemment. Là.
Ouais, c'est vrai. Donc, Charedine, supporter tunisien, qu'est-ce que tu penses là, de notre débat autour de l'amélioration du foot africain ?
Oui, alors moi.
Même si je le précise en fait, encore une fois, il y a beaucoup, autant de foot africain qu'il y a de pays en Afrique. Hein.
C'est ça.
On est d'accord.
En fait, pour moi, il y a deux types de foot africain. Par exemple, si on prend la CAN. Les joueurs de la CAN, c'est 80% de joueurs sélectionnés, c'est des joueurs qui jouent hors Afrique. On va dire l'Europe, l'Asie, Qatar, voilà. Ça veut dire, là, je trouve que le niveau, il est très, très, très élevé. Et on va dire, pour que je m'enflamme pas, bah, le niveau, au même niveau que la Copa América, quoi. Moi, je trouve ça comme ça. Et par contre, l'Afrique nationale, ça veut dire le jeu en club, je trouve ça, le niveau, il est très loin. Par rapport aux structures de stade, par rapport aux formations des arbitres, on est très très loin. Par contre, quand on voit l'organisation de la CAN, les joueurs qui viennent, les noms de joueurs qui vont jouer, franchement là, il y a des hauts niveaux quoi.
Ouais, oui, non mais on est d'accord. La CAN maintenant, ça fait venir des grandes stars du foot.
Après, dans les championnats nationaux, le problème où, enfin, c'est que les meilleurs joueurs partent rapidement dans les pays européens.
Excuse-moi de vous avoir coupé. En fait, quand on voit comment par exemple, la fédération anglaise, qu'elle veut pas céder ces joueurs en Afrique, là, on comprend l'importance de ces joueurs-là. Et ça, par contre, ça nous touche, nous, énormément, toutes les nations, parce qu'on n'attend que ça. Pendant 2 ans, on n'attend que ça. Là, ça va faire plus que 2 ans qu'on n'a pas joué la CAN par rapport au problème de Covid. On n'attend que ça. Et là, aujourd'hui, moi, je trouve que le football africain, il est beaucoup, beaucoup plus élevé qu'il y a 5 ans, il y a 6 ans. Et dès que le temps passe, dès que le football africain, il va être encore plus élevé. Mmh. Ben, c'est mon avis. Après, je ne sais pas si vous partagez la même idée.
Je pense que c'est ce qui a été dit et je pense que Jimmy partage totalement ton avis, hein, Charedine.
C'est bien ça, ouais. Par contre, le football africain en club, là, on est très loin. Et là, il y a différents. Par exemple, on va dire le football africain du Nord. C'est pas comme le football africain, Sénégal, Côte d'Ivoire et tout. C'est pas la même chose. Mmh. Je trouve aussi que le football africain de la Tunisie, c'est pas parce que je suis tunisien, la Tunisie, l'Algérie, Maroc, c'est beaucoup plus élevé que le Sénégal ou le Cameroun. Pourquoi ? Parce que c'est là où ils gagnent le plus de Champions League africaines.
Ah oui, la championnat africaine, oui.
C'est ça. C'est là où il y a plus de demi-finales, plus de finales. Par exemple, l'Espérance de Tunisie, le Ahly en Égypte.
Il y a l'Égypte aussi, oui, qui a des gros clubs.
Exactement,
hein.
Exactement. Le Zamalek, le Stif en Algérie. Voilà, il y a l'UIDED, il est.
Et alors la Tunisie, là, pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, comment tu les vois?
Alors, par rapport, vous avez bien vu la Coupe d'Arabe. Je ne sais pas si vous avez
oui,
bien
on a suivi, bien sûr.
Exactement.
La victoire de l'Algérie.
La Tunisie, elle était en finale et on est très surpris parce qu'il y a, on va dire, 50% de l'équipe, elle n'était pas là parce que
bah oui,
en Europe, elle n'a pas été libérée. On a découvert pas mal de bonnes surprises, des très très bons joueurs. Ben, le retour de Ifa, qui ça fait 5 ans, il n'a pas été en sélection. Le gamin, le jeune de Manchester United, Annabelle Mejbri, c'est une très très bonne surprise. Franchement, la complicité des joueurs, moi franchement, je vais être très 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 optimiste. On va être minimum en demi-finale.
Voilà, d'accord, après, ok.
Voilà, moi, mon avis.
Mais t'as raison d'être optimiste.
J'aimerais bien la gagner, mais il y a le Maroc. Et
oui, il y a du lourd.
Très, très fort.
Ouais, il y a du lourd, effectivement. La c'est Tunisie ça. Qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2004.
C'est bien ça, et j'étais présent.
Voilà. Merci beaucoup, Charline.
Merci
beaucoup d'être passé. Tu reviens quand tu veux, bien sûr, sur RMC dans l'After. Petit détour par le All-Star Game, puisque Dylan Afomama a gagné le concours de dunk. C'est parce que Flo Gautreau était là. C'est le joueur de Tours qui remporte le concours de dunk. Il est au micro d'Arnaud Valadon et de Nicolas Bayou.
Oui, François, avec le vainqueur Tourangeau, ça va faire plaisir à Florent de ce concours de dunk. Dylan Afomama, bravo Dylan. Alors, c'était comment?
Merci.
De faire ce concours de dunk alors que les jauges arrivent, il n'y aura peut-être pas 16 000 personnes avant longtemps. C'était beaucoup d'émotion, beaucoup d'énergie aussi avec la salle.
Merci. Franchement, c'était beaucoup d'énergie, beaucoup de stress aussi. On n'a pas forcément l'habitude de jouer devant une salle aussi pleine, devant sa famille, ses amis et 16 000 personnes. Donc franchement, ça donne beaucoup d'adrénaline.
Là, sur le concours de dunk, il y a eu le dunk au-dessus de la moto. Comment est venue cette idée? Avec la cagoule de Spider-Man en plus, le clin d'œil.
Bah, de base, j'avais demandé une voiture. J'étais inspiré de Black Griffin. Et on m'a dit que la moto, ça serait plus possible. Et après, étant donné que Spider-Man, c'est le film du moment, je me suis dit, la moto plus le main, ça va forcément attirer du public, ça va faire du bruit. J'ai tout misé sur ça.
Et là, en tant que détenteur du concours de dunk, vainqueur du concours de dunk, l'année prochaine, tu pourras peut-être la demander, la voiture, là, non?
Ouais, je pense que l'année prochaine, je vais demander la voiture.
Un petit mot sur la saison de Tours, parce que ça marche bien en Pro B. Vous venez de monter de National 1 à Pro B. Il y a une salle, un projet de salle, en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe. Tours, qui est une terre de sport, évidemment, et le basket, ça faisait longtemps. Il y a quelques années, c'était en National 2. Là, en Pro B, il se passe quelque chose du côté de Tours.
Bah, franchement, on a bien commencé la saison. On est dans le positif. On a une très bonne équipe, on joue bien ensemble et au niveau du club, ça commence à devenir professionnel. Ça faisait 23 ans qu'ils n'étaient pas au haut niveau. Là, on est en Pro B, les supporters, ils sont derrière nous. Ils vont mettre en place une salle de 5000 places pour pouvoir vraiment être une bonne structure professionnelle et pouvoir nous aider à aller de plus en plus haut dans le championnat.
Ben merci beaucoup, bravo Dylan Afomama, vainqueur du concours de dunk ici All-Star Game de basket à Bercy, toujours avec énormément d'ambiance.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Arnaud, voilà Flo, Tourangeau tout en haut.
Ça me redonne des couleurs et de l'espoir.
Merci beaucoup Jimmy Adjovi-Boko d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup.
Tu reviens quand tu veux.
Merci Jimmy.
Avec grand plaisir.
Merci Jimmy, bonne soirée.
Et bonne fête de
bonne
fin d'année à toi.
Bonne fête de fin d'année à tout le monde.
Et on rappelle
avec la canne, hein.
Dian Barthes, donc voilà, qui est ton projet, ton bébé. T'es pas tout seul, t'es pas le seul papa, mais voilà. T'es un des papas de Dian Barthes, on aura l'occasion d'en reparler. Et on parlera bien sûr de la CAN à partir du 9 janvier sur RMC. Et jusque-là, on aura l'occasion d'y revenir. Le score en première ligue, Valentin Jamin, sur les deux matchs.
11 minutes de jeu, toujours 1-0 pour Chelsea face à Brighton grâce au but de Lukaku sur corner. Et 45 minutes de jeu dans l'autre match entre Brentford et Manchester City. City est devant grâce à Foden, 1-0.
Et tout de suite, les équipes All-Star de la Ligue 1 de Sébastien Piocel et de Flo Gautreau et les vôtres au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. N'hésitez pas, à tout de suite.
L'After Foot,
20h minuit sur RMC.